Je vous invite à vous tourner avec moi dans le livre du prophète Ésaïe. Nous allons voir ce matin le chapitre 43. Je vous rappelle un peu le contexte. Le prophète Ésaïe parle d'événements qui vont avoir lieu dans près de 200 ans. Si vous avez besoin d'une Bible, on les distribue en ce moment. Faites un signe à James. Il parle d'événements avec près de 200 ans d'avant, à l'avance, et il indique à Juda et même à Israël en général qu'ils vont aller en exil, qu'ils vont être capturés par les Babyloniens, mais que ceux-ci vont être forcé de les libérer par l'intervention de l'Empire perse. Et ces prophéties qui se sont accomplies à la lettre posent un problème aux sceptiques. Ils disent qu'en fait, c'est pas possible qu'il n'y ait qu'un seul auteur. Il y a deux auteurs. Il y en a un qui a écrit après que les faits se soient déroulés, mais ce n'est pas le cas. Jésus lui-même parlait d'un seul Ésaïe. Il citait des passages dans ce qu'on appelle, certains sceptiques appellent le premier Ésaïe et le deuxième Ésaïe en disant le même Ésaïe a écrit. Et ça me suffit pour être convaincu qu'il n'y a qu'un seul auteur, bien sûr c'est l'Esprit Saint qui a utilisé Ésaïe et que ses prophéties se sont réalisées. Et Dieu va utiliser cette assurance de ces prophéties qui se sont réalisées comme une preuve, comme une signature de sa parole. Et vous aussi, vous devez avoir une totale confiance dans la parole de Dieu. On va voir que ce matin, on va faire des allusions aux témoins de Jéhovah qui ont utilisé des parties des versets que nous allons voir pour se proclamer témoins de Jéhovah et dire qu'en fait, Jésus n'est pas Dieu. Et nous allons vous montrer, en espérant que vous allez bien retenir ça, qu'ils n'ont malheureusement rien compris à la parole. Je vais vous indiquer d'ailleurs qu'on aura le privilège d'accueillir une conférence au mois d'avril sur les sectes par le pasteur Marcel Marchioni, ancien pasteur des Assemblées de Dieu et responsable du ministère multimédia des Assemblées de Dieu, CVA, Christ vous appelle. Il a consacré sa vie maintenant à la défense de la foi contre les sectes. Et il viendra nous parler des témoins de Jéhovah. Il viendra nous parler aussi des Mormons. Et là encore, sachez qu'il est difficile de, tout seul, si vous n'avez pas un entraînement, de parler à ces personnes parce qu'elles sont conditionnées pour avoir des discussions avec vous. Et Marcel nous racontait qu'il a assisté à des séances de formation où il y a justement des personnes qui jouent le rôle du bon chrétien ou du bon évangélique, et le témoin de Jéhovah apprenne à leurs adeptes à contrer les arguments. Et des principes, c'est que pour parler aux témoins de Jéhovah ou aux Mormons, à toutes les sectes, il faut d'abord beaucoup d'amour. Si vous allez vers eux avec de la haine, de la colère, vous n'allez aboutir à rien. D'abord de l'amour et aussi savoir les déstabiliser. Ils ont quelque chose qu'ils ont appris par cœur, des réponses aux questions, des questions à vos réponses, et il faut les déstabiliser. Une fois que vous les avez déstabilisés, ils sont prêts à être cueillis par l'amour de Dieu. Et donc, on est entouré par des témoins de Jéhovah, notamment. Chaque année, en France, où ils sont à peu près 114 000, ils passent 16 millions d'heures à aller de porte à porte ou aller dans les rues. Il est temps que les chrétiens fassent pour la vérité ce que les sectes font pour les mensonges. Alors, on ne vous demande pas d'aller témoigner dans la rue, nécessairement, quoique ce soit encore très bonne chose à faire, mais ouvrez la bouche, dites ce que Dieu a fait pour vous autour de vous, que ce soit vos parents, vos amis. 16 millions d'heures pour 60 millions d'habitants, ils parlent en moyenne un quart d'heure à chaque personne en France. Voilà, mais aujourd'hui, on veut se réjouir de la vérité, on veut se réjouir de la parole de Dieu. On a, vous allez dire que je le dis à chaque fois, mais aujourd'hui on a un passage formidable. Le chapitre 43 d'Ésaïe, vous allez voir cette richesse, vous allez voir cette profondeur, cet encouragement. Nous avons chanté un chant, « Ne crains rien, je suis avec toi. Quand tu passeras par les eaux ou par les flammes, je serai avec toi. Tu ne seras pas brûlé, tu ne seras pas noyé, car je suis avec toi. » C'est un texte biblique qui vient justement du début de ce chapitre 43. Si vous voulez bien, on va commencer à lire ensemble. Page 711 dans la Bible La Colombe, la première partie de la Bible. « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place, du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je rassemblerai de l'Occident. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens pas, fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. » Sept petits versets qui nous apprennent des choses fondamentales sur Dieu et sur nous et sur son peuple. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Dieu parle à son peuple en tant que créateur. Ça, c'est fondamental. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas le fruit du hasard? Vous n'êtes pas un accident cosmique? Vous avez été créé par un Dieu qui a des projets et qui vous aime. Il vous a formé, il vous a créé, il nous a façonné. Il nous dit encore une fois, sois sans crainte. On a compté dans la Bible, il y a à peu près 366 fois où Dieu nous dit par sa parole, n'aie pas peur, ne crains pas, ne crains rien. Est-ce qu'on peut fermer la porte derrière là, s'il te plaît? Si 366 fois, c'est pas un hasard. On pense que c'est parce que, au moins chaque jour, une fois par jour, Dieu veut nous rappeler qu'on n'a pas de raison d'avoir peur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de raison d'avoir peur? Parce que justement, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a décidé. C'est pas nos parents. C'est pas encore une fois un accident. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a créé et que Dieu vous aime. Est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous en doutez? Il y a des fois, on en doute. Mais, il nous dit, on n'a pas de raison d'avoir peur parce qu'il nous a formés. Et puis, il nous a rachetés. On voit aussi l'aspect prophétique de cette parole. Parce que quand Ésaïe écrit, le rachat par Jésus, la rédemption, on va en parler, n'avait pas encore eu lieu. Mais il dit, je t'ai racheté et il nous connaît par nom. Il nous donne un nom. Je t'ai appelé par ton nom. Ça, c'est un signe que la personne prend soin de vous ou est intéressé par vous. J'ai un problème en ce moment, c'est sans doute l'âge, mais il y a des fois où il m'est impossible de me rappeler brutalement d'un prénom. Et le plus j'essaye de m'en souvenir, et le plus je bloque. Je sais que je suis le seul ici à faire ça, parce que je sais que c'est tellement important. L'autre jour, j'ai souhaité l'anniversaire du fils de Fred et Viviane et je me suis trompé. Entre Alex et Kenny, c'est vrai qu'ils sont pas... Il y a un air de famille, bien sûr, mais... Et j'étais mortifié parce que j'ai utilisé le mauvais prénom. Ça, c'était la semaine dernière. Il y a deux jours, j'ai fait la même chose. J'ai prié pour Christopher au lieu de prier pour Alexander. Mais Dieu, lui, ne fait pas cette erreur. Soyez rassurés. Lorsqu'il dit Mappy, lorsqu'il dit Tim, lorsqu'il dit James, quel que soit votre prénom, c'est parce qu'il vous connaît intimement. Il vous a formé, il vous a créé. Et il nous a rachetés. Vous avez sans doute entendu déjà cette histoire. Il y a des histoires qui sont des histoires authentiques, et puis il y a des histoires où on se dit, ça c'est une histoire qui a été fabriquée par un pasteur pour un sermon. C'est un peu, en anglais on dit cheesy ou corny, un peu bébête. Mais ça illustre bien ce point-là. C'est l'histoire du petit garçon qui avait passé beaucoup de temps à se construire un petit bateau, un petit voilier. Il avait utilisé les outils de son papa, il avait essayé de façonner quelque chose qui flotte. Et un jour il avait enfin eu dans les mains ce petit bateau avec un petit mât, une petite voile. Et le bateau flottait, il tenait droit, il avait bien lesté, il l'avait mis à la plage et le bateau naviguait très bien. Le problème, c'est que le vent a pris le bateau et le petit garçon a vu son bateau partir au loin, il l'a perdu. Puis un jour, il l'a retrouvé dans la vitrine d'un marchand d'objets d'occasion. Il a dit, mais ça c'est mon bateau, je reconnais, là c'est là que j'avais cassé le mât, j'avais reparé, c'est mon bateau. Il est rentré, il a demandé au marchand, donnez-moi mon bateau. Et le gars lui a dit, mais c'est pas ton bateau, c'est moi qui l'ai trouvé, je l'ai trouvé sur une plage bien loin d'ici, si tu le veux, il faut que tu l'achètes. Le petit garçon a fondu en larmes, il est rentré chez lui, ses parents, ses grands-parents l'ont aidé à rassembler la somme que demandait le vendeur. Il est retourné, tout content. Il a repris ce bateau, il a racheté son bateau. Et puis il a dit à son petit bateau qui portait plein de joie, il dit, maintenant tu es à moi deux fois. Je t'ai créé, je t'ai fabriqué, mais maintenant je t'ai racheté. C'est un peu bébête comme histoire, mais c'est l'histoire de... C'est notre histoire. Vous savez pas que vous étiez un petit bateau. Dieu nous a créés et Dieu nous a rachetés. On lui appartient. Tu es à moi. Est-ce que vous savez que Dieu dit de vous, tu es à moi? Il le disait de son peuple, Israël, mais il nous le dit à nous qui sommes son peuple. Nous lui appartenons. Pourquoi est-ce qu'on se fait du souci? La traduction qui dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, les fleuves. Si tu marches dans le feu », c'est pas un « si » hypothétique, c'est « quand tu marcheras dans les eaux, quand tu auras des épreuves ». L'eau et le feu symbolisent les épreuves de la vie ici. Et nous aurons tous des épreuves, si nous n'en avons pas déjà eu ou si nous ne sommes pas au milieu de certaines épreuves. Des épreuves qui pourraient nous détruire, sauf que l'on sait que Dieu est avec nous. Il n'a pas promis d'éviter les épreuves, mais il nous promet d'être avec nous dans les épreuves. Et ça fait toute la différence. Il y a des fois des choses qui arrivent à certains, même à certains amis chrétiens, et on se dit, mais je ne pourrais pas survivre. La mort d'enfant, le meurtre d'un époux, d'une épouse, des choses terribles. Mais Dieu nous dit, t'en fais pas, je suis avec toi. Quand tu marcheras dans ces choses terribles, tu ne seras pas consumé, tu ne seras pas noyé. Il ne nous dit pas de courir dans le feu, dans l'épreuve. On peut prendre notre rythme, on peut marcher dans l'épreuve, on peut marcher dans le feu. Je me souviens quand j'ai fait mon service militaire, une des parties de l'entraînement, c'était d'apprendre à combattre le feu. Et on nous revêtait d'une combinaison spéciale, ignifuge, qui donc nous protégeait des flammes. Mais c'est vrai que lorsqu'on mettait le feu à des bidons d'essence, à des bouts de bois, et il fallait faire un trajet à travers. Et la tendance, c'était de vouloir courir. Mais on nous disait, non, il faut marcher. Et avec Dieu, on peut marcher dans les épreuves de la vie. Être patient, se compter sur lui, se confier en lui. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Cette notion de salut qu'on retrouve dans Ésaïe, très tôt. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Ça, c'était les pays qu'il allait donner, en fait, à l'Empire perse, à Cyrus, qui allait venir le délivrer, qui avait laissé Israël revenir dans la terre promise et reconstruire le temple, la ville. Et il dit une chose très importante, il dit « Du fait que tu as du prix à mes yeux ». Est-ce que vous savez que vous avez du prix aux yeux de Dieu ? Si vous avez fait un peu d'économie, vous savez que le prix de quelque chose, c'est une chose qui n'est pas intrinsèque. On vous dit « un tel ordinateur coûte tant ». En fait, ça veut dire que le fabricant a constaté qu'à ce prix-là, il arrive à en vendre et que s'il le montait trop haut, ça, il en vendrait moins. S'il le vendait trop bas, il ne retrouverait pas ses marges. Le prix de quelque chose, c'est en fait ce que quelqu'un est prêt à payer pour cette chose. Et Dieu a donné la chose la plus précieuse qui soit pour chacun et chacune de nous. La Bible est écrite, et on peut l'affirmer, que si j'étais seul, Dieu aurait fait la même chose pour moi seul. Il l'aurait fait pour chacun de vous, si vous aviez été tout seul parmi les hommes, parmi les femmes. Il y aurait peut-être eu moins de péchés dans les relations interpersonnelles, mais il y aurait sans doute des péchés d'orgueil, des péchés. Mais Dieu a payé le prix. Ça, c'est un message que l'on retrouve dans toute la Bible. Lors d'une récente pastorale, le pasteur qui nous recevait citait un exemple dans Matthieu 13. Matthieu 13, c'est le chapitre des paraboles. Et dans ce chapitre, il y a des paraboles et il y a en particulier celle du trésor caché. Que la plupart des gens, les paraboles, on pense que c'est simple à comprendre. La plupart du temps, on fait des contresens sur les paraboles. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. On pense des fois que c'est l'homme qui trouve Dieu, qui devrait vendre tout ce qu'il a pour se consacrer à Dieu. Mais il est évident qu'on ne peut pas acheter Dieu. Vous avez assez d'argent pour acheter Dieu ? Alors soyez sûr de donner la dîme ce matin. Non, il n'y a pas de... Le sens, c'est en fait, c'est Dieu qui a trouvé le trésor. Et le trésor, c'est vous, c'est moi. Est-ce que ça vous surprend, ça ? Vous dites, c'est pas possible, je ne suis pas un trésor, je me connais trop bien. Dieu vous a créé, il a tout payé, il a donné Jésus, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, Dieu nous aime. C'est déjà dit dans l'Ancien Testament, il n'y a pas besoin d'attendre. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, mais ça doit nous confirmer dans le fait que Dieu vous aime. Est-ce que vous le savez ça? Est-ce que vous en êtes convaincu intimement? Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie, sois sans crainte. Encore une fois, sois sans crainte, n'aie pas peur. Rassure-toi, je suis avec toi. Pensez au moment où vous êtes senti tellement seul dans l'épreuve, dans la peur. Et pourtant, Dieu était avec vous. Vous connaissez aussi l'image de ses pas dans le sable, où un homme disait à Jésus qu'il avait vu en rêve des pas de deux personnes dans le sable, et Jésus lui expliquait, oui, dans sa vision, oui, c'est moi qui marche à côté de toi. Il dit, oui, mais un peu plus loin, je vois qu'il n'y a plus qu'une seule trace de pas. Tu m'avais abandonné. Il dit, non, c'est moi qui te portais au moment de l'épreuve. Dieu est avec nous, Dieu ne nous quitte pas, c'est nous qui nous éloignons de lui, c'est nous qui ne pensons plus à lui, qui le mettons de côté, qui l'oublions. Je ramènerai de l'Orient ta descendance, je rassemblerai de l'Occident, je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens pas, fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Il est question d'Israël ici, bien sûr, et du retour du peuple de Dieu en terre promise. C'est plus que le retour de l'exode de Babylone, parce que pour revenir de Babylone, il n'y avait pas besoin d'aller du nord, du sud. Là, c'est le retour de la fin des temps. Et déjà, en 1948, Israël est redevenu une nation. Un fait sans précédent dans l'histoire. On dit que le roi de Frédéric de Prusse avait un conseiller français, le marquis d'Argence, qui était d'Aix-en-Provence, qui était devenu son conseiller, qui vivait à sa cour. Il était plutôt critique de la religion traditionnelle, mais il avait une foi en Dieu. Et une fois, le roi lui demandait « Donne-moi une preuve de l'existence de Dieu ». Et le marquis lui a répondu, c'est très simple, c'est deux mots, les Juifs. Les Juifs sont le peuple de Dieu et leur destinée est incroyable. On n'a pas d'empire aztèque renouvelé, on parle pas l'aztèque aujourd'hui. Dieu a fait revenir comme nation le peuple d'Israël, qui dans sa grande majorité encore le rejette aujourd'hui. Mais il y a un reste, il y a des Juifs messianiques, et il est dit dans l'Apocalypse qu'il y aura un grand travail de conversion parmi les Juifs. Il y aura des 144 000 Juifs, 12 000 de chaque tribu qui sont des témoins. Et ces 144 000, ce ne sont pas les témoins de Jéhovah. Et il n'y a pas eu d'autre peuple dans l'histoire de l'humanité qui ait subi autant d'attaques, autant de génocides. Et pourtant, Israël est toujours là. Et c'est très attristant. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne comprennent pas le plan de Dieu pour Israël. Ils pensent que l'Église a remplacé Israël. Non. Si les promesses que Dieu a faites à Israël ne sont pas tenues, les promesses qu'il a faites à l'Église ne seront pas tenues non plus. Pourquoi le seraient-elles? La présence, l'existence d'Israël, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on doit supporter tout ce que les politiques d'un gouvernement non chrétien, qui ne croit pas à Christ, entreprend, mais le plan de Dieu est en train de se réaliser de façon évidente, de façon indéniable. Israël, C'est embêtant pour les athées. On voit pourquoi le monde s'acharne contre Israël de tout temps. Ils ont été les victimes de pogroms, d'exclusions, de mises à la porte de nations, et pourtant ils sont toujours là, et Jérusalem est toujours le centre des actualités. Tout ce qui se passe à Israël a une portée mondiale. Il y a une dimension spirituelle. Et donc, là, c'est une prophétie de ce qui s'est passé déjà en 1948, de ce qui va se passer à la fin des âges, qui pourrait être très bientôt maintenant. Tout est en place pour l'enlèvement d'Église. On en a parlé, on y reviendra. Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. Votre raison d'être. C'est la chose la plus terrible, la plus néfaste, la plus odieuse, la plus regrettable, la plus détestable qu'ait fait la théorie de l'évolution. C'est de nous dire qu'on n'avait plus aucune raison d'être. Nous sommes des accidents cosmiques et donc on n'a aucune raison d'être. La vie n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? On vous dit qu'il n'y a aucune raison. Et on s'étonne après que le monde qui a embrassé cette vision des choses, qui repoussait Dieu en dehors de nos consciences et de l'image que l'on se fait, on s'étonne pourquoi le monde va si mal. S'il n'y a pas de sens, alors faisons n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe, on fait n'importe quoi. On prend des idoles. Maintenant, la nouvelle idole, c'est le réchauffement climatique. C'est Copenhague, la grande messe. C'est très important de respecter le monde que Dieu a créé. Mais n'en faisons pas une idole. Il est beaucoup plus important d'apprendre aux hommes qu'il y a un Dieu qui les aime que de leur dire qu'ils doivent limiter leurs émissions de CO2 à effet de serre. Est-ce que vous y êtes? Ou est-ce que vous êtes complètement pris par ce monde qui dit il n'y a pas de raison, mais essayons de faire qu'on continue à vivre plus longtemps sans raison? C'est tellement absurde, c'est tellement plus c'est gros, plus ça passe. Et l'évolution, c'est une théorie fausse. Encore une fois, c'est pas une question d'intelligence. Il y a des gens très intelligents des deux côtés. C'est une question de cœur. C'est une question de dureté du cœur. C'est une question de ne pas avoir de compte à rendre à personne. Dans l'Apocalypse, il est dit, chapitre 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. Le monde n'est pas un accident, c'est Dieu qui l'a créé dans un but bien précis, pour sa gloire. Il nous a créé, nous avons une raison d'être. Nous ne sommes pas à la dérive dans un monde insensé. Il nous dit ensuite que son peuple doit être un témoin. Nous devons témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies, de ce que Dieu fait autour de nous, de ce que Dieu fait parmi nous. Verset 8, qu'on fasse sortir le peuple aveugle alors qu'il a des yeux et les sourds alors qu'ils ont des oreilles, que toutes les nations se rassemblent et que les peuples s'amassent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lequel nous ont appris les premiers événements? Qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient? Qu'on les entende pour pouvoir dire « c'est vrai ». C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. » Vous êtes donc mes témoins, oracle de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu, je le suis dès avant que le jour fût, et nul ne délivre de ma main, j'agirai. Qui s'y opposera ? Vous êtes mes témoins. C'est intéressant, c'est à partir de ce passage que les témoins de Jéhovah ont choisi leur nom. Rutherford et Miller ont pris cette expression « Vous êtes mes témoins ». Ils ont dit « Ce sont les témoins de Dieu, de Yahweh », le nom imprononçable qu'ils prononcent Jéhovah, probablement avec erreur. Mais ils n'ont rien compris. Il est dit « Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu ». Ce passage nous explique qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a pas de petit Dieu. Il y a un autre passage dans le Deutéronome qui dit la même chose. Il n'y a pas de petit Dieu. Les petits dieux, c'est des idoles. Et nous savons que même dans la traduction du Monde Nouveau, qui est la traduction des témoins de Jéhovah, pour le premier verset du livre de Jean, ils ont traduit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était un Dieu. » Ils ont voulu rabaisser Jésus au rang de petit Dieu. Mais le passage dont ils tirent leur nom explique qu'il n'est pas possible. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors ils disent « Il n'y a pas la Trinité dans la Bible ». C'est vrai, le mot n'existe pas, mais partout elle est enseignée. Dieu, le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, un Dieu unique en trois personnes. Vous ne comprenez pas, moi non plus. Mais si on pouvait comprendre Dieu, on serait plus grand que Dieu. C'est moi qui suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Jésus est venu pour sauver le monde. C'est lui le sauveur. Il est. L'autre passage qu'on peut regarder rapidement, c'est Deutéronome 32-39. Là aussi, ça, c'est des choses à encadrer dans votre Bible, à voir à portée de main. Vous les déstabilisez avec ça, après, ils se regardent l'un l'autre et ils partent pour rechercher d'autres explications mensongères. Deutéronome 32-39. Maintenant donc, voyez que c'est moi seul qui suis Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu près de moi. Il n'y a pas de petit Dieu. Ils essayent d'expliquer Jésus en disant qu'il est un petit Dieu avec un petit dé. Mais le passage même qu'ils utilisent donc pour se nommer explique que c'est impossible. Sachez ça. Ça, c'est fondamental d'avoir des éléments comme ça, de pouvoir leur dire, attendez, qui est Jésus pour vous ? Et s'ils vous disent, c'est un petit Dieu, vous leur dites, c'est pas possible. Et vous les amenez à Ésaïe 43. Et là, ils repartent, ils se posent des questions. Et vous priez pour eux, vous le dites avec amour. Vous leur dites, on vous a induit en erreur. Parce que moi, ma Bible dit ça, et votre Bible dit la même chose. Promesse de délivrance arrive au verset 14. Ainsi parle l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël, un très beau terme. Le Saint d'Israël, c'est pour vous que j'ai envoyé quelqu'un contre Babylone, les Perses. Je les ferai couler tous ces fuyards, ces Chaldéens, dans leurs bateaux de plaisance. Ça, c'est dans la version à la Colombe. Vous ne saviez pas qu'il y avait des bateaux de plaisance. Je me suis posé un peu la question, qu'est-ce que c'était que ces bateaux de plaisance ? C'était des bateaux sur lesquels ils étaient heureux d'avoir ces bateaux, d'avoir cette flotte, et ils s'en réjouissaient. Je crois que l'idée d'un bateau de plaisance est peut-être un peu une mauvaise traduction, je ne suis pas sûr. Mais Babylone devait fuir sur des bateaux. « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi il parle l'Éternel qui trace une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, qui met en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers. Ils se couchent, ils ne se relèvent plus, ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. » Ça, c'est une allusion au premier Exode. Le fait que Dieu a délivré son peuple de l'Égypte, qu'ils ont pu passer la mer des joncs et qu'elle s'est refermée sur leurs poursuivants. C'est une prophétie de la façon dont ils vont être délivrés de Babylone. C'est une prophétie de la fin des temps. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle, elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, car j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ça, c'est un passage à encadrer aussi, le verset 18, verset 19. Dieu nous dit, oubliez les choses du passé. Mais il vient de nous parler de la façon dont il avait libéré son peuple. C'est en fait que Dieu nous dit de nous souvenir de certaines choses. Et Dieu nous dit d'oublier certaines autres choses. Et nous avons tendance à faire juste l'inverse. Nous oublions ce qu'il veut que nous souvenions, ça ne l'emmène rien, et nous faisons l'inverse. Pour ce qu'il veut que nous oublions, nous nous en souvenons. Ne considérez plus ce qui est ancien. Vos péchés passés, lui les a oubliés si vous les avez confessés. Vos échecs, votre enfance. Et là, la psychologie souvent nous conduit à ratiociner, à essayer de nous rappeler ce qu'on a fait dans le passé, les malheurs qu'on a vécus, les choses qui ont marqué notre passé. Dieu dit, oubliez ça. Rappelez-vous des bonnes choses. Rappelez-vous quand vous m'avez rencontré. Rappelez-vous de votre zèle. Rappelez-vous de ces choses que vous faisiez. Apocalypse, lorsque Jésus parle à l'église d'Éphèse. Tu fais plein de bonnes choses, tu travailles dur, tu n'arrêtes pas. Mais j'ai contre toi ceci, tu as oublié ton premier amour. Reviens donc à tes premières œuvres. Rappelez-vous quand vous avez découvert le Seigneur, comment vous étiez plein de joie, comment vous étiez plein de zèle. Ce que vous faisiez, la façon dont vous leviez tôt le matin pour lire la parole, pour méditer, pour prier. La façon dont vous étiez assidu aux réunions avec d'autres chrétiens à l'église. Mais nous, on a tendance à se rappeler des problèmes et puis on oublie toutes les bonnes choses que le Seigneur a faites pour nous. Amen. Je fais une chose nouvelle. Dieu fait de nouvelles choses. Il y a cette façon humoristique qui dit qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie déprimante. Non, aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie avec Dieu. Dieu nous donne un nouveau départ. Tous les jours, il nous donne un départ avec lui, une fois normalement, une fois devrait suffire. Mais même si on s'éloigne, on peut revenir à lui, on peut recommencer. Repartir à zéro, comme dit un chant que certains aiment bien. Il est capable de tout. Il peut faire un chemin dans le désert. Il peut mettre des fleuves dans les terres arides. Peut-être que vous trouvez que votre vie est sèche en ce moment. Votre relation avec Dieu est sèche. Il ne tient qu'à vous de lui demander de faire reverdir le désert. De planter des fleurs. De faire couler de l'eau vive dans votre vie qui va déborder et qui va irriguer autour de vous, qui va apporter de l'eau vive aux gens qui se meurent de soif. Et cette délivrance, elle sera par grâce. Encore une fois, ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux, ce n'est pas parce qu'intrinsèquement nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur parce que Dieu a décidé de nous aimer et de tout donner pour nous créer et nous racheter. Verset 22, « Ce n'est pas moi que tu as invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes agneaux en holocauste, tes sacrifices n'étaient pas à ma gloire. Je n'étais pas astreint à un service d'offrande. Je n'étais pas lassé pour de l'encens. » Il est en train de leur dire, ils n'ont pas suivi leurs devoirs religieux, les rituels religieux, ils n'ont pas offert les agneaux, les sacrifices n'étaient pas bien faits, il ne les a pas embêtés pour leur dire de faire ces choses rituelles, religieuses, mieux que ça. Tu n'as pas acheté pour moi un prix d'argent du roseau aromatique, tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Dieu aurait le droit de dire, vous n'êtes pas à l'église, vous ne donnez pas la dîme, vous ne participez pas à la vie, mais ce n'est pas ça qui va vous reprocher. Ce n'est pas ça qui reprochait à son peuple. Il dit, tu m'as lassé par tes fautes. C'est nos péchés, c'est nos attitudes. J'avais un ami qui était un merveilleux témoin personnel. Et j'allais, des fois, il m'emmenait avec lui pour parler à des gens. Et souvent, les gens disaient, « Oh, mais j'ai pas le temps de venir à l'église. » Et il leur disait, « Mais Dieu, il veut pas ta présence. Il veut pas ton argent. Il veut pas ton service. Dieu, il veut ton cœur. » Je me souviens, quand il disait ça, les personnes étaient toujours bouleversées quelque part. Et Dieu me dit, c'est pas le fait que vous n'allez pas à l'église, c'est pas le fait que vous oubliez la dîme, c'est pas le fait que vous participez pas, que vous lisez pas la Bible tous les jours, c'est votre cœur qui est pécheur, c'est votre attitude, ce sont vos attitudes, vos pratiques, votre manque d'amour et de respect pour moi. Mais là, c'est la grâce de Dieu, c'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi. Il ne le fait pas pour nous, il le fait parce qu'il nous a créés, il veut pouvoir nous racheter, il veut pouvoir avoir cette relation d'amour avec nous et pour son nom propre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu a disparu, le souci d'une réputation. Mais la réputation de Dieu y veille jalousement. Elle fait partie de ce qui constitue sa gloire, son nom. Et il ne veut pas qu'on puisse dire, ce Dieu qui a créé ces personnes, son peuple, il le laisse tomber parce qu'ils lui désobéissent, ils n'ont même pas de respect pour lui. Non, il efface les crimes. C'est lui qui efface les crimes. Et cette merveilleuse promesse, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. L'ennemi est là qui nous les rappelle, ses péchés. Il est là pour nous condamner. L'Esprit Saint vient pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. La différence entre la condamnation et la conviction, c'est que la condamnation va vous éloigner de Dieu. Vous allez vous dire, oh, c'est vrai, je suis tellement pécheur. Satan a raison, je ne peux plus même m'approcher de ce trône de Dieu. C'est un trône de grâce, Hébreux 4, 16. C'est un trône de grâce, c'est-à-dire que ce n'est pas sur nos mérites, c'est sur la base de son amour et de sa décision de nous pardonner si nous venons à lui par le sacrifice de Jésus, le sacrifice parfait. Verset 26. Rappelle mon souvenir, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché. Alors il y a des questions, est-ce que c'est Adam, est-ce que c'est Abraham? On pense qu'il s'agit peut-être plus de Jacob, dont il est question plusieurs fois comme pécheur dans le prophète Ésaïe. Tes interprètes se sont rebellés contre moi, ceux qui devaient être des intermédiaires entre moi et les hommes, les prêtres. Vous vous souvenez de la colère de Jésus contre ces chefs religieux, hypocrites, attachés aux formes extérieures mais qui n'avaient plus le cœur, Eux faisaient toutes ces choses, ils assistaient à toutes les réunions, ils faisaient tous les sacrifices, mais Dieu était lassé par leurs fautes. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du lieu saint, j'ai livré à Jacob à l'interdit et Israël aux outrages. Ça aussi c'est prophétique, rappelez-vous. Ces paroles sont rapportées par le prophète Ésaïe 200 ans avant que ces faits, les premiers, avant que l'exil n'intervienne pour Juda, le royaume du sud. C'est l'Éternel seul qui rachète Israël. Amen.